Bonjour Aurélien Taché.
Bonjour.
Il y a aujourd'hui un an, jour pour jour, qu'Emmanuel Macron était élu président de la République pour un deuxième mandat, un mandat qui sera à l'évidence plus compliqué que le premier, on va en parler, mais je voudrais que l'on revienne d'abord quelques instants sur Emmanuel Macron, sa politique, son ambition, son projet pour la France, puisque vous le connaissez bien, vous étiez à ses côtés, vous étiez même proche de lui lors de la campagne de 2017, vous avez cru en lui, vous avez été élu député sur les listes de La République En Marche depuis quelque temps déjà, vous êtes devenu, je crois qu'on peut le dire, un adversaire politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez qu'il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 6 ans lorsque vous vous étiez engagé à ses côtés?
Je dirais en tout cas que la promesse qui avait été celle de 2017 est très très loin, hein, rappelons-nous, de ce jeune président dynamique qui vient de nous expliquer qu'il va faire une révolution démocratique. On le voit, effectivement, la révolution démocratique a bien eu lieu, mais c'est plutôt une contre-révolution qui a eu lieu. Et que sur le reste, Emmanuel Macron, finalement, il fait que révéler sa vraie nature, que peut-être certains dont je fais partie n'avaient pas perçu à l'époque.
Vous avez péché par naïveté ?
Probablement, oui, puisqu'on se retrouve avec un président qui, au contraire, d'avoir gouverné avec l'ensemble des Français, avec la jeunesse, avec des gens qui jusqu'ici n'étaient pas autour de la table et dont il promettait qu'il les mettrait, se révèle être quelqu'un d'assez autoritaire, arrogant, brutal, et qui finalement a montré que toutes les promesses qu'il faisait à l'époque sur l'émancipation, le progressisme, autant de choses qui parlent à l'homme de gauche que je suis, ont été bien balayées et enterrées au profit de choses extrêmement classiques et conservatrices, toujours moins d'impôts pour les entreprises, toujours moins d'immigrés en France, bref, le discours habituel de la droite. Donc Emmanuel Macron, effectivement, a révélé sa vraie nature et on peut dire qu'elle est plutôt désespérante pour des électeurs de gauche.
Donc vous ne diriez pas qu'il est passé de la gauche à la droite ?
Non, je ne dirais pas ça parce que je pense qu'en fait, il n'a jamais vraiment été de gauche. Il a à l'époque su convaincre des gens comme moi et beaucoup d'autres qu'il l'était pour attirer les voix des socialistes pour avoir son élection. Et puis aujourd'hui, il va chercher à droite puisque c'est là qu'il voit son capital électoral et qu'aussi ça lui est beaucoup plus naturel au regard de ce qu'il a toujours pensé, à savoir l'économie qui prime sur le politique, une vision assez conservatrice des choses. C'est très triste, mais c'est ainsi. On le voit sur de nombreux sujets, la question climatique et bien d'autres.
Alors, à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée une dizaine de lecteurs de nos confrères du Parisien pour une très longue interview dans laquelle de très nombreux sujets sont abordés. Et il y explique notamment, à propos de la crise provoquée par la réforme des retraites, qu'il doit se réengager dans le débat public, qu'il doit peut-être mouiller plus la chemise. Est-ce qu'il pense que la réforme des retraites aurait été mieux acceptée s'il l'avait défendue personnellement ? Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il veut dire ?
Je pense que c'est ce qu'il veut dire, mais qu'on a bien vu qu'il y avait eu effectivement un flottement quand même à la tête de l'État depuis presque un an. Hein. Il était les rangs de sa propre majorité se demandaient où était le président de la République. Hein. Donc évidemment, il y avait des sujets importants à traiter à l'international, mais enfin, il y en a toujours eu et ça ne l'a jamais empêché d'intervenir. Donc on voit bien que lui-même a finalement sorti cette réforme des retraites un peu du chapeau pour finalement ne pas donner l'impression d'avoir fait un deuxième mandat pour rien, puisqu'il n'y a pas eu de campagne. Il y a eu une réélection par défaut face à Marine Le Pen. Il faut quand même le rappeler, qui aurait dû l'obliger à changer de méthode, Emmanuel Macron, qui aurait dû l'obliger à mieux entendre les oppositions et à faire une gouvernance vraiment démocratique, mais ça n'a pas été le cas.
Ce qu'il avait dit d'ailleurs au soir de sa victoire.
Ce qu'il avait dit le soir de sa victoire, il avait promis à tous ceux qui avaient voté pour lui uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen, mais ça n'a pas du tout été le cas. Donc il sort cette réforme des retraites violente, brutale de son chapeau pour montrer qu'il peut réformer, puisque Emmanuel Macron est surtout dans une logique de se prouver des choses à lui-même, et il dispose paraît pendant des mois, laissant son gouvernement en première ligne, et maintenant arrive beaucoup trop tard sur le terrain, et on voit le rejet très fort des Français. Vous savez, la seule chose qui aurait peut-être pu faire qu'on évite cela, c'est effectivement qu'il assume pleinement sa réforme, et puis ensuite qu'il la passe au vote. Il a encore une fois brutalisé la démocratie avec ce 49-3, il a envoyé ses ministres au front en se cachant, et aujourd'hui on a une réforme qui est rejetée par les trois quarts de la population, on a des Français qui sont brutalisés quand ils veulent manifester. Bref, on a un divorce consommé entre Emmanuel Macron et les Français, et je pense que malheureusement, il ne fera rien de suffisamment fort pour pouvoir revenir vers eux.
Alors, cette réforme est en effet très majoritairement rejetée par les Français. Il se sait impopulaire aujourd'hui, Emmanuel Macron, mais il a tout de même décidé de retourner sur le terrain, d'aller à la rencontre des citoyens qui ne se privent pas de l'apostropher, parfois en termes extrêmement crus, pour ne pas dire franchement grossiers. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça ?
Je pense que c'est encore une fois deux choses. D'abord, l'ego de monsieur le président de la République, qui n'en manque pas et qui veut se prouver qu'on ne le défie pas impunément, que lui n'a peur de personne, que finalement, il peut aller où il veut, finalement, mais c'est, on voit que ça n'est pas le cas. Puis ses conseillers en communication, sans doute, qui doivent lui dire il faut sortir du palais. Mais encore une fois, je le dis, c'est trop tard. Aujourd'hui, le niveau de fracture entre les Français a atteint un niveau inédit sous la Ve République. Jamais ils n'ont été aussi divisés. Donc si monsieur Macron veut que les 4 années soient, et que les 4 années qui lui restent soient encore utiles, et il le faut parce que les défis sont très nombreux, il n'a pas d'autre solution que de soit retirer sa réforme, soit de retourner aux urnes. Et comme monsieur
retourner
Macron...
Retourner aux urnes de quelle manière? Par une dissolution de l'Assemblée?
Soit en dissolvant l'Assemblée nationale, ouais. Effectivement, par la dissolution de l'Assemblée nationale, soit, en, par exemple, en proposant un référendum, et puis en fonction du sujet, par exemple, sur les retraites, d'avoir une réponse politique qui est de démissionner ou non. Et voilà la seule solution pour monsieur Macron, s'il veut véritablement que ces 4 années ne soient pas perdues. Nous avons besoin que ces 4 années ne soient pas perdues. Il y a des
s'il
défis
ne le
immenses.
Fait pas, vous pensez que les 4 ans qui viennent...
Sinon, il va falloir... Sinon, il sera...
4 ans de perdus.
Il sera, lui, en tout cas, condamné à l'impuissance. Nous allons devoir nous passer d'Emmanuel Macron. Et c'est terrible, puisque les défis sont très nombreux. Logement, éducation, bien d'autres. Et je crains que nous ayons à faire sans lui, malheureusement, parce qu'il ne prendra pas ses décisions courageuses.
Dans cette interview, nos confrères du Parisien, il défend son bilan écologique. Je tiens à le dire, sur l'écologie, j'ai un bilan. Et là, on accélère sur l'éolien en mer, sur le nucléaire, la décarbonation de notre industrie. Ensuite, on crée une filière de production de véhicules électriques sur notre sol. On investit massivement sur le rail. C'est historique. Pour vous, il est d'ailleurs aujourd'hui en Belgique pour un sommet de la mer du Nord. Pour vous, Emmanuel Macron, l'écologiste, ça n'est pas crédible ?
Pas du tout. Prenons simplement ce dernier sujet de l'éolien. Vous avez raison de rappeler qu'il est aujourd'hui, la France, à travers lui, est aujourd'hui au deuxième sommet de la mer du Nord, ouais. Qui donc avait été lancé l'année dernière après la terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine, pour dire que la mer du Nord devait devenir, parce qu'on parlait beaucoup de sécurité énergétique, la centrale électrique verte de l'Europe. Bon, pour la France, on en est encore très très loin. C'est même pas un demi-gigawatt d'éolien en mer. C'est 80 éoliennes en mer qui existent aujourd'hui en France, alors qu'on pourrait jusqu'à 140 gigas. Et sur l'éolien, d'une manière générale, on est à 16,5 quand la plupart des pays sont autour de 30 ou 40 gigas. 40 pour l'Allemagne, par exemple, qui fait la moitié de sa consommation en photovoltaïque et en éolien. Donc moi, je crois plutôt qu'Emmanuel Macron, sur l'éolien, il faut se rappeler ce qu'il disait à Stéphane Bern. T'as raison, les éoliennes, il y en a trop, c'est moche. Voilà ce qu'il pense fondamentalement. Et là, il va faire un petit tour en mer du Nord pour essayer de nous faire croire qu'il est écologiste. Mais nous, les vrais écologistes, n'avons que très très peu d'illusions.
Une importante opération de police contre la délinquance et l'immigration clandestine doit commencer aujourd'hui à Mayotte. Pour vous, y a-t-il d'autres moyens de lutter contre l'immigration clandestine qui atteint des niveaux extrêmement importants dans ce département français ?
En tout cas, moi, je serais très attentif à ce que ce qui se passe actuellement à Mayotte soit bien dans le respect des droits fondamentaux. Parce que, encore une fois, nous sommes la France, nous sommes un pays qui avons toujours fait le choix de s'inscrire dans cette grande tradition des droits de l'homme. Et là, j'ai quelques craintes quand je vois la manière dont les choses sont organisées, de manière assez opaque d'ailleurs, avec des opérations qui ont l'air quand même d'être des opérations où on va venir détruire des maisons, prendre des gens pour les emmener où et comment.
Ce sont des maisons de fortune.
Des maisons de fortune, certes, mais enfin, on a quelque chose qui s'apparente à une espèce de rafles géantes sur cette île-là. Donc je trouve que quand même, on a quelque chose qui est très très préoccupant sur le plan des droits humains. Bien sûr que Mayotte a une situation particulière, je l'entends.
À peu près la moitié de la population est étrangère.
Tout à fait. Il faut aussi se rappeler des conditions dans lesquelles, finalement, les Comores sont devenus indépendantes. Oui. Mayotte devait en faire partie, puis finalement, la France n'a pas souhaité. Et aujourd'hui, elle n'assume aucune ou très peu de politique avec les Comoréens sur le plan de la coopération, sur le plan de l'immigration. Donc moi, je serais très attentif à ça, car on ne peut pas laisser à Mayotte, comme ailleurs sur le sol de la République française, les droits et les principes fondamentaux être bafoués, et j'ai quelques craintes.
Mais il faut agir tout de même à Mayotte.
Je ne dis pas qu'il... Oui, bien sûr qu'il faut agir, mais encore une fois, voyons ce que nous pouvons faire avec les Comoréens, voyons comment nous pouvons intégrer aussi un certain nombre de Mahorais ou de gens qui viennent d'obtenir leur papier récemment. Il y a des choses à faire, c'est très clair, et c'est pas uniquement par des opérations du style de celles que M. Darmanin mène en ce moment.
Merci Aurélien Taché.
Merci.
Bonne journée.
Merci.